J'aimerais savoir si vous avez des questions sur la pratique, sur le Dhamma, sur la méditation, la voie bouddhiste, les problèmes que vous avez dans la pratique, ce que vous voulez. Plutôt que de donner un enseignement formel dès le départ, comme ça, j'aimerais avoir un petit peu une idée, si vous avez des questions, le genre de choses qui vous tracassent, ou bien qui vous questionnent, ou qui vous rendent confus, ou qui ne sont pas encore claires dans votre esprit, ou qui a besoin de clarification.
J'ai remarqué quelque chose pendant la méditation marché. J'ai besoin d'énormément de patience avec moi-même. J'ai toujours l'invasion de mes pensées. Je pratique depuis une année et demie la méditation. Mm-hmm. Et puis il me semble que j'en suis toujours au même point. toujours répéter toujours la même chose. Et puis je me perds complètement dans mes pensées. Et puis je dois me rattraper, revenir. Et puis voilà, énième fois. Je me rappelle de mes pensées, complètement absorbée, complètement identifiée.
Alors, une question à la fois, hein? D'accord?
Simplement dire que tu n'es pas seule. J'imagine que je suis dans un club très fourni.
C'est une très bonne question, parce que c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde. Et aussi un sujet qui peut porter à énormément de confusion et à énormément d'une appréhension de la pratique et d'une appréhension de la méditation et de soi-même qui n'est pas juste en fait, qui n'est pas correcte. Alors c'est une bonne question, ça me donne l'occasion d'en parler justement. Hein? Alors, lorsqu'on pratique la méditation, que ce soit la méditation en marche, la méditation assise, allongée ou debout, il faut bien se rappeler que la notion de patience est une notion qui est un concept, une idée qui est portée à un niveau très élevé dans la voie bouddhiste, la patience. En fait, la patience est une des qualités qui est prônée par le Bouddha à une qualité les plus hautes dans un être humain. La discipline la plus difficile, la plus grosse discipline, c'est la patience. Dans les écrits bouddhistes, hein, dans les dialogues du Bouddha avec ses disciples, la patience est l'austérité la plus ultime en quelque sorte. Hein? Donc quand on se sent impatient, quelle belle occasion de pratiquer la patience. On n'a pas d'autre occasion de pratiquer la patience qu'au moment où nous sommes impatients. Parce qu'on se rend compte que à ce moment-là, on peut entraîner l'esprit dans une autre direction. Si on ne sait pas qu'on est impatient, on est encore un peu dans le noir. Mais quand on voit son impatience, alors à ce moment-là, l'entraînement de l'esprit, le développement d'esprit qu'est la méditation, hein, prend son sens. Donc votre impatience devient une chose extrêmement importante à ce moment-là. Parce que dès que vous voyez que vous êtes impatient, vous n'êtes pas obligé de vous flageller ou de vous battre ou de vous critiquer. Il faut voir ce moment d'impatience comme une vision de vous-même est très importante. Non pas négative, mais si vraiment vous observez votre esprit avec ce qu'on appelle la vue juste, hein, dans le chemin octuple que sans doute Anne a dû vous enseigner de nombreuses fois, dans la vue juste de la voie octuple, si on voit son impatience, on peut aussi voir la fin de l'impatience. Tant qu'on ne voit pas quelque chose, clairement, il est très difficile de le lâcher ou bien de se désidentifier, ou bien de casser une habitude d'impatience, par exemple. Casser au sens de stopper cette habitude, ou bien qui vient évidemment graduellement. C'est pas un stoppage, on parle pas d'un stoppage brutal, mais c'est un travail graduel, hein, petit à petit, petit à petit. Donc quand vous êtes impatiente, c'est normal. L'esprit non entraîné est impatient. Même quand il est entraîné un peu, il est encore impatient. L'impatience, c'est un état mental que l'on rencontre très souvent. Hein? Et quand vous dites, au travers de cette impatience, l'objet qui nourrit cette impatience, c'est le fait que vous continuez à ressasser les mêmes vieilles histoires, les mêmes vieilles pensées, les mêmes... Hein? Bienvenue à l'esprit humain ordinaire. Welcome, on dit. Welcome to the ordinary mind. Hein? C'est l'esprit normal. Quand il n'est pas entraîné, il ressasse les mêmes histoires. Vous n'êtes pas tout seul, comme cette dame vous a rappelé. C'est un point commun avec tous les êtres humains. Quand l'esprit n'est pas conscient, quand il n'y a pas de mindfulness ou d'attention, la machine roule tranquillement avec ses habitudes. La machine, hein, c'est-à-dire machine humaine, entre guillemets. Hein. Elle continue à faire les mêmes choses. Elle n'a pas le moyen de sortir de son sillon pour faire autre chose. Ce n'est que quand on voit que ce sillon, ce trajet dans le même sillon devient douloureux, ce que vous avez expérimenté, je suis impatiente, j'en ai assez, cette impatience est un signe que vous préfériez ne pas avoir cela. Hein? Donc c'est le début, ce qu'on appelle de la première vérité noble. Hein? Insatisfaction. Vous sentez insatisfaite par rapport à cette habitude de ressasser les mêmes pensées. Et donc, ce que j'ai entendu dans ce que vous avez dit, c'est que vous aimeriez que ce soit différent.
C'est-à-dire, toutes ces pensées, ils me volent l'instant. Ils me volent l'instant présent. Je ne suis pas là, je suis tout le temps, je ne sais pas où, hein, parce que c'est même machinal, comme vous avez dit. Oui. Je suis en train de suivre une machine qui fait toujours le même tour. Puis je ne sais pas où je mets les pieds, j'étais en train de marcher, par exemple.
Mais ces pensées-là, elles ne vous volent pas l'instant, elles sont votre instant.
Si je le sais, peut-être, si je suis consciente.
Mais vous le savez, puisque vous m'en parlez maintenant, vous devez le savoir. Oui. N'est-ce pas? C'est votre instant, un instant un peu confus, c'est tout. Vous voyez la confusion mentale à ce moment-là. C'est l'instant que vous vivez. Mais vous aimeriez bien en avoir un autre, qui soit plus facile à vivre. Hein? Donc de voir la confusion, c'est une très bonne chose. C'est ça, qu'il faut apprendre à commencer à lire ce qu'on appelle à lire le mental correctement. Hein? Correctement. Quand il y a la confusion, peut-être à ce moment-là, vous avez pensé, ah non, c'est pas la confusion, c'est simplement une chose qui ne devrait pas être là, et je préférais qu'il me prend mon instant. C'est vraiment imagé quand même. Hein? Il me prend mon instant. Cette pauvre confusion, elle vous vole votre instant. Oh, n'est-ce pas terrible quand même, hein? Mais elle ne vole pas votre instant, elle est l'instant. Elle ne se passe pas ailleurs que dans l'instant. Alors qu'est-ce que vous allez en faire de cet instant? Quand il est dans la confusion, vous voyez la confusion. La colère va aussi vous voler votre instant. Elle ne vous vole pas l'instant, c'est un instant de colère. La paresse va vous voler votre instant. Non, il ne vous vole pas l'instant. C'est ce qui se passe dans l'instant. Par contre, ce dont on a besoin à ce moment-là, c'est une très grande patience, c'est-à-dire apprendre à stopper cette habitude de lire l'esprit incorrectement. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à dire « ça ne devrait pas être comme ça, ça devrait être autre chose si je pratiquais bien », entre guillemets, il faut se rappeler que c'est l'instant même que vous vivez à ce moment-là. Oui, c'est pas très agréable, vous préférez avoir l'esprit clair, tranquille, calme, etc. peut-être. Hein. Là, vous avez l'impression qu'on ne vous vole pas l'instant. Donc c'est déjà un jugement par rapport à qui vole l'instant de toute façon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vole l'instant ? Faire très attention parce que le langage, la façon dont on parle, dont on communique, vous pourriez l'écouter Et si vous écoutiez, si vous écoutiez en train de parler, qui est-ce qui vole l'instant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vole? Non. Il vole votre idée de l'instant tel que vous pensez qu'il devrait être. Vous voyez ce que je veux dire? Il vole votre idée de l'instant. Mon instant, il devrait être calme, paisible, patient, etc. Ça, il vous le vole. Il vole la perception que vous avez de l'instant telle que vous aimeriez l'avoir. Un idéal, en quelque sorte. Hein? Alors, c'est bien de revenir dans la réalité. La réalité, c'est que ce qui se passe dans l'instant, c'est votre expérience de l'instant dans la réalité telle qu'elle est. Mm-hmm. C'est clair?
Très clair.
Oui?
Oui.
Ok, c'est bien.
Non, j'ai vraiment cette impression de, effectivement, de non-conscience. C'est parce que vous employez, il me semble, assez régulièrement ce terme de conscience et même de conscience d'avoir des pensées, alors que j'ai vraiment l'impression, parfois, de ne pas avoir cette conscience d'avoir ces pensées-là, d'être.
Mais oui, oui, oui. Non, mais il y a des degrés de conscience. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, vous avez peut-être un malaise, par exemple, un sentiment de malaise à l'intérieur de soi, mais on n'entend pas encore de pensée. On n'est pas conscient de pensée particulière. Mais plus vous observez ce sentiment de malaise, plus vous pouvez avoir accès à peut-être l'histoire qui est dessous ce malaise, petit à petit. Ce n'est pas nécessairement le cas que ça se passe. Mais si vous êtes vraiment présent, par exemple, avec un état un sentiment de déséquilibre à l'intérieur de soi ou d'un sentiment de malaise, ce n'est pas nécessairement des pensées qui vont surgir à ce moment-là. Hein. Donc on n'est pas toujours conscient de ces pensées. C'est ça que vous voulez dire?
Oui, c'est ça.
Hein? Non, parce que les pensées ne sont pas toujours présentes, mais les pensées, elles peuvent être présentes, mais pas au niveau de on peut pas, peut-être, souvent, on peut pas les voir encore clairement. Vous voyez ce que je... Parce que l'esprit n'est pas toujours, se manifeste pas toujours au niveau de la pensée. Par exemple, quand on a, je sais pas, si on a vécu un traumatisme ou une chose comme ça, on peut avoir physiquement un malaise ou une espèce de blocage quelque part, on ne peut pas penser encore. Et au bout d'un certain temps, plus on décontracte, plus on s'ouvre à ça, ou on donne de l'espace, etc., à un moment, tout à coup, l'esprit peut se mettre à communiquer d'une certaine manière une histoire. Hein? Mais je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Quelquefois, par exemple, je ne sais pas si ça correspond à ce que vous dites, mais à la fin d'une journée, qu'on est en train de travailler beaucoup, qu'on a fait beaucoup d'activités, que l'esprit a, mentalement, on vient sur son coussin, rien qui se passe. C'est comme si le mental est complètement bloqué. On est là, on écoute. C'est comme si il n'y a plus rien qui pouvait rentrer dedans. Simplement, moi, ça m'est arrivé. Comme ça, on arrive à la fin de la journée. J'ai l'impression que l'esprit ne pense pas du tout. Mais au bout d'un certain temps, quand je commence au bout d'une demi-heure peut-être, que les choses commencent à se décanter en quelque sorte, tout à coup mon esprit revient beaucoup plus naturel, il commence à raconter une histoire, penser, raconter ceci, raconter cela, etc. Hein? Vous savez, il y a certaines traditions où on note, colère, ou bien... penser, etc. C'est une façon de noter, ça peut quelquefois aider à clarifier un petit peu ce qui se passe dans l'instant présent. On ne peut pas en faire nécessairement une technique pour le restant de sa vie, mais ça peut servir quelquefois à voir plus clairement. Hein? Quand on dit, par exemple, on se dit à soi-même, je suis en colère, intérieurement, on ne va pas dire ça au monde entier, mais je suis en colère, déjà, ça amène une certaine clarté. Cela nous aide à se connecter avec ce qui se passe en nous-mêmes dans l'instant présent. Ou bien même la question elle-même, est-ce que je suis en colère? Comme si tranquillement à l'intérieur de vous, vous dites, est-ce que je suis en colère? Ou bien, qui est en colère? C'est encore mieux. Qui est en colère? Et ça, les questions sont d'une manière extraordinaire de réveiller le mental. De réveiller. Qui est en colère? Là, mon esprit, il n'arrive pas à répondre. Il n'y a personne qui est en colère. Il y a la colère. Il n'y a pas quelqu'un qui est en colère particulièrement. Évidemment, mon voisin n'est peut-être pas en colère, donc c'est moi qui suis en colère. Mais quand je pose la question, je trouve personne qui est en colère. Il y a simplement, je suis habité par la colère à ce moment-là, qui est causée par de nombreuses choses. Enfin, on peut retracer tout ça psychologiquement, à une cause, première. Hein. Mais dans l'instant présent, on pose la question, qui ressent cela? C'est un bon moyen habile pour percer la bulle d'illusion quelquefois qui entoure nos expériences. On la perce, cette bulle, quelque part. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions?
Si vous êtes actif toute la journée et le soir, vous asseyez sur le coussin, est-ce qu'on peut faire le même travail qu'avec la fatigue, de se demander qui est fatigué?
Oui, absolument, absolument. Je l'ai même, oui. Mais gentiment, hein. Il faut voir le but qu'on a dans ce questionnement. Hein. Oui. Si vous brutalisez mon mental un peu trop, il va se rebeller tout de suite. Hein. Il faut le faire avec beaucoup de gentillesse et de douceur. Hein. Et ça marche, ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. Hein.
Parce que moi, j'ai plutôt le problème avec le temps qui file.
Oui.
Merci. Et le soir, il y a la fatigue qui me prend.
Qui n'a pas cette expérience?
Hein? Est-ce que c'est une question de volonté? Comme pour tout travail?
C'est une question de... Ça dépend comment vous appelez la volonté. Comment vous voyez la volonté? Comment, ce que vous voulez dire par volonté? Il y a une question d'effort. Hein? Et cet effort, évidemment, il y a un certain degré de volonté. Hein, pour faire un effort, il faut quand même vouloir faire cet effort. Ça n'arrive pas tout seul. Hein. Mais en même temps... il faut reconnaître que si on est fatigué, on est fatigué. Donc ce n'est pas une question, on n'est pas dans le volontarisme à vouloir faire que cette personne qui est fatiguée ne devienne pas fatiguée. Il faut faire très attention, cette idée de je vais faire un effort pour ne pas être fatigué. Vous pouvez vous le dire à vous-même, mais cet état de volonté, si elle est trop, comment dirais-je, si elle n'est pas équilibrée, vous allez avoir l'esprit rebelle. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. La nature de l'esprit, c'est notre état une rébellion, résistance, etc. Même avec les meilleures choses, on vous dit de faire ceci, de faire cela. Est-ce que vous avez remarqué que la première réaction, non. Non, je ne sais pas, ce n'est pas mon truc. Hein? Très souvent, il y a déjà une résistance quelque part. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller, il faut aller très, très doucement avec l'énergie physique et mentale, savoir comment on parle à son esprit, parce que si on est trop volontaire, il va y avoir un état de réaction comme ça. Quand vous êtes fatigué, quelquefois il faut... Il faut comprendre qu'en nous-mêmes, on a une certaine sagesse, hein? Il y a une certaine connaissance déjà en nous-mêmes. Donc d'essayer de voir ce que votre esprit vous dit par rapport à ça, sans idée préconçue, sans je devrais être comme ceci, je devrais être comme cela, etc. Mais dès que vous vous connectez avec votre expérience de fatigue, il y a une intelligence en nous-mêmes qui sait rééquilibrer les choses. Hein? Donc il faut être à l'écoute de ça, parce qu'on peut être très intimidé, parce que les gens nous disent « je devrais être ceci, je devrais être comme cela », etc. La fatigue, vous avez peut-être simplement besoin de vous étendre pendant 10 minutes tranquillement, toute seule, dans le silence. La fatigue, ça peut être prendre une tasse de thé, on peut faire différentes choses. Moi, il n'y a encore pas très longtemps, J'ai fait une expérimentation que je connaissais depuis, depuis des décades, mais j'étais très fatiguée. Je me souviens, je me suis couchée, je me suis allongée avant de dormir. Et puis, quand même, j'aime bien mettre à l'épreuve mon mental, c'est-à-dire je l'appelle mon doux menteur. Mon mental, c'est my sweet liar, très souvent, hein. Pas toujours, mais... Parce que le mental nous raconte toujours des histoires qui, si on les, vraiment, on les questionne, il y a très peu de vérité dans ce qu'il nous raconte. Méfiez-vous. Mettez-le à l'épreuve. Hein? Alors, donc, quand je me suis allongée, ça, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, tout à fait spontanément, j'étais fatiguée et je voulais dormir. Tout à coup, je me suis... j'étais allongée comme ça, j'ai dit qui est fatigué? C'est une technique que je connais très bien, hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé. Qui est fatigué? Mais j'attends pas de réponse, hein. Il n'y a pas de réponse, c'est mon corps qui me donne la réponse en quelque sorte, le mental et le corps qui donnent la réponse. Je ne donne pas de réponse conceptuelle. Qui est fatigué? Où est la fatigue? Mon corps me dit, ah, je sens le corps fatigué. Qui est fatigué? Il n'y a personne qui répond. Je pose 3-4 questions. J'étais tellement bien réveillée que j'ai plus envie de dormir, mais alors pas du tout. J'avais aucune envie de dormir. J'étais complètement éveillée, complètement prête à faire quoi que ce soit, quoi. Donc, quelquefois, il faut s'amuser avec son mental un peu, hein. Avoir un petit peu de joie, s'amuser un petit peu avec, parce que la pratique, c'est pas seulement une discipline sévère, misérable, dure, difficile, etc. La pratique, c'est aussi comprendre que son mental, on n'est pas ce mental, nous ne sommes pas ses pensées, mais si on ne les voit pas consciemment, nous devenons ses pensées. Hein, nos pensées habituelles, nous devenons ces pensées habituelles très facilement. Si je pense que je suis déprimée, par exemple, pendant trop longtemps, alors je ne parle pas de problèmes de dépression quand les gens sont vraiment cliniquement déprimés parce que peut-être un déséquilibre chimique dans le cerveau ou une chose qui est beaucoup plus, disons, une cause plus profonde. Hein. Mais je parle d'un sentiment dépressif, un peu sentir un peu misérable, triste ou quoi que ce soit. Eh bien, vous pouvez observer, commencer à observer, à poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment déprimé? Qui est déprimé? Vous posez la question, qui est déprimé? Et vous commencez à faire ce qu'on appelle le vipassana, c'est-à-dire l'observation des sensations physiques, de l'activité mentale qui se surgit à ce moment-là, etc. Hein? Ça va, ça suffit comme réponse pour votre question?
Donc avec ça, vous prolongez le temps.
Ben avec ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de temps, en fait.
Il n'y a pas de temps. Ouais.
Ça m'est venu à l'esprit il n'y a pas longtemps que dans l'instant présent, on est dans l'éternité, pour ainsi dire, parce qu'il n'y a pas de temps. Le temps, c'est psychologique, hein, c'est quand on va en avant, en arrière, etc. Mais dans l'instant présent, où est le temps dans l'instant présent? Intéressant. Moi, je vous dis pas, vous croyez pas ce que je dis, hein, mais posez-vous la question. Où est le temps dans l'instant présent? C'est quand même intéressant, hein, comme question. Et si on était déjà dans l'éternité? Ce serait agréable quand même, hein. On aurait tout le temps possible. Je me souviens, un groupe d'amis des non-chrétiennes qui étudiaient la Kabbale, ou enfin un texte, ou soit de la Bible, ou... c'est pas la Kabbale, pardon, c'est un texte de l'Ancien Testament. Et je leur ai dit, mais c'est une sacrée étude que vous faites, hein, ça vous prend combien de temps par jour, vous faites ça avec, c'est un prêtre qui l'a enseigné, hein. Ah, elle me dit, oh, bon, on a tout le temps, on a l'éternité devant nous, de toute façon. Mais c'est quand même important de voir cette dimension où on est toujours dans le temps, en train de penser demain, la minute, l'heure, le temps passe, les jours passent, mon âge, je vais devenir plus vieille, etc., etc. On est très prisonnier du temps, n'est-ce pas? Bon, quelquefois, de s'ouvrir, d'avoir une petite fenêtre comme ça, qui nous disent, mais où est le temps, peut-être Le temps existe, évidemment. On a le soleil, la nuit, le jour, les saisons, les vacances, le non-vacances, le travail, etc. Donc, la notion de temps est très présente dans notre vie humaine. Hein. Et dans la méditation, vous recontactez avec ce qui crée le temps. Hein, la pensée crée le temps, constamment. D'autres questions ?
Alors, pour revenir à la question de la conscience qui a été posée à plusieurs reprises, le problème pourrait être posé autrement, c'est-à-dire, c'est, je fais quelque chose, mais je pense à quelque chose d'autre.
Et oui.
Je coupe des légumes, je pense à quelque chose d'autre, je me coupe le doigt.
C'est ça, on appelle ça le multitasking en anglais. Oui, c'est le manque d'attention. Hein? Est-ce que vous avez remarqué que il n'est pas si difficile de savoir si on est attentif ou pas? Par expérience, hein, d'une manière expérientielle, c'est-à-dire pas en se tortillant l'esprit comme ça avec la pensée, mais faites l'expérimentation de observer quand est-ce que vous êtes présente. Est-ce que vous pensez beaucoup quand vous êtes vraiment attentive? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées? Est-ce que vous avez beaucoup de pensées quand vous êtes attentif? Oui ou non?
Je
ne
sais pas.
Ben, observez ça, commencez à voir un petit peu vous-même, hein, de vous-même, parce que moi je peux vous dire des choses, mais c'est vraiment à vous d'expérimenter ça. Quelle était votre question exactement? En fait, je n'ai pas compris, vous m'avez parlé d'une histoire ou d'une situation particulière, mais est-ce que vous avez une question par rapport à ça, ou bien qu'est-ce que vous vouliez me communiquer par rapport à ça? Parce que ce n'est pas trop clair dans mon esprit.
Que le problème qui avait été soulevé, comme je le comprends, c'est celui de comment je peux être un accord entre ce que j'ai fait et ce qui se passe dans ma tête, et ne pas être dans cette situation désagréable où je tire d'un côté, je tire de l'autre, et j'ai fait des bêtises dans le sens pour moi, pour les autres.
Oui, absolument, c'est une bonne question. Quand on entre dans la dimension, dans le domaine de la méditation, on apprend, on voit petit à petit clairement combien nous sommes conflictués. Vous connaissez cette expression française ? Conflictués ?
Non.
Conflictés ? En conflit. Conflit, c'est en anglais ça. En conflit, c'est-à-dire notre esprit nous dit oui, mon cœur me dit non, et mes mains font autre chose. Donc, un être humain est très dispersé, parce qu'il n'a pas encore l'harmonie en soi-même, il n'a pas encore cet accord entre la tête, le cœur, les émotions, le corps, etc., ses désirs. On a des désirs de faire le bien, mais aussi on a des habitudes de faire le mal. On a des désirs d'être discipliné, mais on a l'habitude de ne pas être. On a envie d'être attentif et conscient, mais nos pensées sont en train de se balader dans tous les domaines, dans les différentes planètes de l'univers, hein. On a envie d'être gentil, parce qu'on sort de la salle de méditation bouddhiste, mais on arrive à la maison et on crie à son partenaire. Hein? Donc, c'est une bonne chose, c'est une bonne étape dans sa vie humaine de voir que nous sommes des êtres qui font face à énormément de conflits intérieurs. On est en conflit, on ne s'en rend pas compte pendant des années, des décades. C'est grâce à la méditation formelle nécessairement, mais vous êtes dans la nature en train de marcher tranquillement, etc., vous pouvez tout à coup entendre beaucoup mieux ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. C'est pour ça qu'on aime bien la nature, hein, parce qu'elle est un point. D'abord, la nature est en accord avec elle-même, donc elle nous influence, hein, à être plus en accord avec nous-mêmes, donc quand on marche. Et quand vous êtes plus dans le dharma, dont la traduction est aussi nature, hein, ça veut dire aussi nature, Il y a le dharma, la vérité, nature, hein, différentes traductions. La seule chose à faire sur le plan de la pratique bouddhiste, c'est d'observer. Vous êtes observé, non pas détaché, observateur détaché, mais observateur présent et intéressé à ce qui se passe. Vous êtes intéressé, non pas à prolonger cet état de conflit, mais vous êtes curieux en quelque sorte de savoir comment je puis gérer ceci. Comment vous n'avez pas... L'important, c'est de poser des questions qui n'ont pas de réponse habituelle. Parce que si vous cherchez toujours, si vous cherchez la réponse, déjà la question est un peu faussée quelque part. Faites que cette question ait une réponse beaucoup plus vaste qu'un mot, qu'un seul mot. Hein? Beaucoup plus vaste, qu'elle vienne de votre sagesse, de l'intérieur de vous-même. Et la question sera répondue par votre intelligence innée, hein, qu'on appelle la sagesse, si vous vous y intéressez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, là, vous avez remarqué que quand vous coupez les patates d'un côté, vous êtes en train de penser aux vacances l'année prochaine ou cette année, et puis tout, en étant pris dans une pensée plus les pommes de terre, hop, dès que vous êtes tourné vers les pensées, vous avez coupé le doigt, vous n'avez plus d'attention sur le... C'est ça. C'est-à-dire, vous avez tourné votre attention sur un autre objet qui fait que ce malheureux couteau qui peut être très dangereux et que vous coupez le doigt carrément, ben, vous avez beaucoup de chance s'il ne vous a pas coupé le doigt. Vous pouvez vous estimer chanceux si vous ne vous retrouvez pas à l'hôpital avec un doigt qui... Hein? Dans la pratique, c'est très important de toujours avoir... On apprend petit à petit, hein. Même quand les choses vont très mal, etc., on entraîne son esprit à apprendre. Et quand on apprend quelque chose, c'est toujours intéressant. La vie est beaucoup plus intéressante quand on continue à se trouver dans à étudier ce qui se passe et à explorer, quand la vie devient une exploration. Et c'est pour ça que je pense que les gens sont très intéressés par le bouddhisme, parce que il nous permet d'explorer. On n'a pas à devenir quelqu'un, on n'a pas à être autre chose que ce que nous sommes. Mais nous avons un domaine d'exploration qui est vraiment intéressant. Et qui nous rend vraiment, comment dirais-je, qui fait appel à nous-mêmes, à une participation de nous-mêmes par rapport à cette découverte de soi, cette connaissance de soi. Donc petit à petit, on... Ça va comme réponse ou...
Très bien.
Je ne vais pas donner aucune réponse en fait. Hein. Ça suffit?
Oui.
D'accord.